vue d'ensemble de l'actualité.
Mais toute ville, toute municipalité qui veut aller de l'avant avec des restrictions supplémentaires, au-delà des restrictions déjà très fortes qu'on est en train de mettre sur des armes de poing à travers le pays, vont pouvoir le faire avec des vraies conséquences fédérales et criminelles.
Trainville PM.
Alors, c'était Justin Trudeau, donc, qui défendait son projet de loi, son programme de rachat. En fait, c'est son programme, je devrais dire. Son programme de rachat d'armes prohibées, hein, qui ne sera pas obligatoire. Fait qu'il a rendu illégal 1500 modèles d'armes d'assaut. Et là, cette semaine, il a dit, bon, ben ceux qui ont ces armes d'assaut ne pourront plus les utiliser, mais ils n'auront pas besoin de nous les rendre en échange d'un montant d'argent. Ils vont pouvoir les garder. Bon. Et là, ce matin, j'ai vu ça dans la presse, une lettre ouverte d'André Gélina, un sergent détective à la retraite de la division du renseignement à la police de Montréal. Donc, il était sergent détective au renseignement à la police. Il dit « Qui aura le courage de s'attaquer à ce commerce de mort ?» en parlant des trafics d'armes. André Gélina, bonjour.
Bon après-midi, M. Drainville.
Bon, je vous ai trouvé assez courageux. Quand vous dites « Pour s'attaquer au commerce des armes », alors je vous cite « Toutes les souches du crime organisé devront être ciblées, les motards criminels, les différentes mafias ou les groupes criminels autochtones. »
Oui, effectivement, c'est ce que j'ai écrit.
Parce que, vous savez, quand on discute de la question autochtone, des fois, on y va avec... on marche sur des œufs. Vous parlez de qui, là? Quand vous parlez des groupes criminels autochtones, vous parlez de qui?
En fait, je ne cible pas aucune organisation particulière. Ce que j'ai voulu exprimer dans ma lettre, c'est un principe général. C'est-à-dire que le Canada, si on regarde sa situation géographique, on a la frontière limitrophe la plus longue entre deux pays au monde. Cette frontière-là n'est pas gardée. On ne parle pas des petits points de douane qui ne sont pas vraiment des points de garde. Donc, c'est sûr qu'on a plusieurs ports d'entrée. Et je pense que c'est de... Écoutez, j'oserais dire de connaissance commune qu'effectivement, il y a des armes qui rentrent par certains endroits où est-ce que on a juste à regarder l'actualité. On sait très bien que la police ne se fait pas de la même façon partout.
Et donc, la majorité... Établissons d'abord que la majorité des armes, les armes d'assaut et les armes point, y compris les armes de point, qui circulent au Canada, c'est des armes qui sont importées des États-Unis. Ça, on peut dire ça?
Bien, écoutez, je vous dirais oui, en grande partie, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les États-Unis, en vertu du second amendement de leur Constitution, ben vous le savez, c'est le droit de porter une arme, c'est fondamental.
Oui, oui, oui.
Donc, on a un pays qui est la source mondiale de production d'armes à feu. Okay. C'est notre voisin. On a une frontière qui est non gardée. Et on a certains endroits qui sont difficiles à contrôler. Et pas seulement les réserves amérindiennes. Je vous parlerai des ports, des aéroports. N'importe quel endroit de la frontière où est-ce qu'il est un peu reculé, ben écoutez, on n'a pas... On n'a pas des gens des douanes et de la GRC en arrière de chaque arbre.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre un trafic d'armes alors qu'il y a autant de points d'entrée possibles pour les armes?
Ben écoutez, c'est sûr que c'est une grosse entreprise, mais moi, je pense sincèrement qu'il faut mettre sur pied des unités d'enquête spécialisées, dédiées, qui sont permanentes et qui ont un financement permanent puis qui ne sont pas liées par des restrictions, comme je l'écrivais, des restrictions politiquement correctes ou des raisons politiques. Vous savez, la Constitution canadienne dit qu'au Canada, la règle de droit s'applique partout et à tous et à toutes. Donc, c'est la solution. Il faut s'attaquer au trafic d'armes parce que d'intervenir sur des gens qui possèdent des permis légalement, qui ont été sélectionnés, entre guillemets, suite aux enquêtes de vérification faites par la GRC et la SQ au Québec, bien, notre impact sera très minime parce qu'on sait pertinemment que la très grande majorité des armes à feu, que ce soit des carabines, des armes de poing, des armes d'assaut, appelez-les comme vous voulez, la très grande majorité de ces armes-là qui sont impliquées dans des crimes, ce sont des armes illégales. Ce sont des armes qui n'ont pas été achetées au magasin de sport par des gens qui possèdent des permis. Il y aura toujours un faible pourcentage de gens qui possèdent une arme à feu légale et qui pourront commettre une folie. Ça, on ne pourra jamais l'éliminer. Mais si on regarde, que la majorité de notre problématique provient du trafic d'armes à feu, ben
qui est par définition normal. Illégal, qui est par définition illégal, ouais.
Ben oui, tout à fait. Donc, si on sait que l'hémorragie se produit à droite et on décide d'intervenir à gauche, moi je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et je crois sincèrement que c'est ce qui se produit présentement et depuis plusieurs années.
OK, mais le projet de Trudeau, là, de Justin Trudeau, en résumé, il a rendu illégal des modèles d'armes, 1500 modèles d'armes.
Oui.
Et il a dit, vous pouvez les garder, là, j'avais promis de les racheter, là, puis j'avais promis que vous alliez être obligé de les rendre en échange d'un montant d'argent. Ça, je le ferai pas, finalement. Puis pour ce qui est des armes de poing, je pèlte ça dans la cour des municipalités, je m'en occuperai pas. Ça, vous trouvez ça?
Je considère que c'est inutile parce que mon expérience, celle de mes collègues qui soient passés... on se parle entre traités, on s'est parlé entre actifs, on se parle entre corps de police. Écoutez, dans des réunions de renseignement, là, les informations, les rapports, là, ça monte toujours vers le haut. Donc, tout rapport produit même par un policier de la base finit un jour par se retrouver sur le bureau des chefs de police ou des décideurs publics. Donc, il faut regarder la réalité en face. Est-ce que ces armes-là ont été utilisées dans des crimes? Et est-ce que ces armes-là qui auraient été utilisées dans les crimes, ce type d'armes-là, a été acquis légalement ou illégalement? Il y aura toujours l'exception d'une arme légale, comme il s'est produit à Dawson. Des exactions comme ça, il y en aura, malheureusement. Mais la très grande majorité, quand on parle des fusillades de gangs de rue, ben, s'ils utilisent un AR-15 ou ils utilisent un pistolet Glock, ben c'est pas un arme à feu qui a été obtenue légalement par la voie légale avec l'obtention de permis.
Mais à ce rythme-là, André Gélina, on n'adoptera jamais de loi pour contrôler les armes. Si vous me dites que peu importe la loi qu'on vote, les criminels vont toujours trouver un moyen de mettre la main sur une arme, puis ils vont le faire illégalement en contournant les lois, ben à ce moment-là, ça donne rien de voter des lois pour contrôler les armes.
Ben, écoutez, c'est pas, je pense pas
que c'est votre point de vue. Est-ce que c'est votre point de vue?
Non, absolument pas. Je suis un fervent défenseur des lois sur les armes à feu. Je pense que c'est pas un bien commun. Tout comme moi, vous êtes chasseur, M. Drainville.
Oui.
C'est pas un bien commun. C'est pas comme aller acheter un objet. N'importe où.
Non. Moi, je trouve ça normal. Moi, je trouve ça normal. J'ai une arme, je suis obligé de l'enregistrer. J'ai aucun problème avec ça.
Non, moi non plus là-dessus, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, mathématiquement, il faut regarder est-ce que nos actions ont des résultats probants. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut faire preuve de réalisme, il faut laisser tomber le côté très émotif de la situation et frapper sur le bon clou. Si on fait des lois pour des armes à feu qui ont été achetées à gros prix par des tireurs, des chasseurs, des collectionneurs, même si ces gens-là vont pouvoir les garder, mais ça, c'est pas votre clientèle qui va aller commettre des crimes, qui va aller faire des drive-by shootings dans les rues de Montréal-Nord ou ailleurs. C'est pas cette clientèle-là. Donc, c'est pas que l'idée, c'est de ne pas intervenir en matière de législation. Non. Mais il faut se poser la question, est-ce que nos législations présentes sont adéquates? Moi, je considère que oui, on a des outils très importants pour travailler avec ce qu'on a déjà. Ce qu'on n'a pas, ce que le crime organisé a, c'est de l'argent et des effectifs. La police, quand vous créez une escouade, ben, faut pas se leurrer, là. Il n'y a pas de l'embauche de policiers au bout de la ligne. Je veux dire, on déshabille Pierre pour habiller Tigui. C'est-à-dire qu'on vide une section pour en remplir une autre temporairement pour faire face à la situation, à la pression médiatique.
Donc, ce que vous dites, c'est que si on était sérieux, on créerait de nouvelles escouades avec des nouveaux budgets et des nouveaux policiers qui, dans ce cas-ci, enquêterait sur le trafic d'armes illégales.
C'est la solution, M. Drainville. C'est la seule façon d'intervenir parce que les lois, le renforcement des lois actuelles n'aura un impact que sur les gens qui possèdent ces armes-là légalement. Les gens qui proviennent du crime organisé, vous le savez très bien, fonctionnent avec des budgets illimités et ne respectent pas les lois.
OK. J'achète ça. On s'entend. Moi, je suis d'accord. On maintient les lois. Oui, on maintient les lois. Ceci dit, j'aurais souhaité un programme de rachat obligatoire là, pour les armes d'assaut, honnêtement. Puis sur les armes de poing, j'aurais pas laissé ça aux municipalités. Je pense qu'il y aurait eu moyen d'avoir une législation. Hein, on s'entend.
Mais écoutez, de toute façon, en vertu de la Constitution, je veux dire, c'est une responsabilité fédérale. Si vous regardez là, les champs de compétences, vous le savez mieux que moi. Ouais. Le fédéral, c'est les armes à feu. Ouais. En fait, tous les types d'armes.
Bon, bien, c'est ça. On est d'accord. Alors, il faut les créer, ces escouades, pour lutter contre le trafic d'armes. André Gélina, vous êtes un sergent détective retraité du SPVM. Vous étiez à la division du renseignement. Merci pour votre contribution.
Merci. C'est tout le plaisir était pour moi.
Patrick Lagacé, après la pause.